Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par le pasteur Redouane Esbanti, pasteur de l'Église protestante française de Saint-Gall, en Suisse. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue pour ce rendez-vous matinal du culte protestant. Je vous invite à vous ouvrir à la parole de Dieu. Ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, cette parole est souvent étonnante, parfois détonnante et même décapante. Quelle surprise cette parole me réserve-t-elle aujourd'hui? Quelle rencontre vais-je vivre avec Dieu? Quelle découverte, quel pas en avant m'invite-t-il à vivre? Je ne le sais pas encore, et ce que nous vivrons ce matin durant ce culte sera certainement différent pour chaque auditeur. Mais une chose est certaine, le Dieu de vie, il vient toujours proposer aux êtres humains de cheminer avec eux. Et ce matin, peut-être avez-vous allumé la radio comme vous le faites chaque dimanche matin, ou peut-être l'avez-vous fait par hasard, cherchant une parole, une musique, quelque chose qui accroche votre attention. Pour nous tous, quelle que soit notre situation et notre motivation, voici, le Seigneur a préparé une parole. Ces mots de Paul Éluard sont bien connus, sont souvent appris dans les écoles ou les collèges. Et ce matin, je voudrais les relire. Il y a des mots qui font vivre. Et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, amour, justice et le mot liberté. Dans la Bible, Dieu est celui qui parle et sa parole justement a la force de nous faire vivre, de nous donner ou de nous redonner vie. Paul Éluard avait raison, il y a des mots qui peuvent nous faire vivre. Il y a aussi des mots qui peuvent blesser, détruire et tuer. Ce matin, je vous invite à la rencontre des mots qui font vivre. Ces mots que Dieu prononce depuis toujours sur les hommes et les femmes de cette terre, comme une incessante et éternelle bénédiction. Dans la nuit d'Orient, l'étoile s'est levée. Dans la nuit du monde, discrète, l'espérance s'est levée. Grâce et paix à vous tous, pèlerins de la grâce, chercheurs de Dieu, ou bien questionneurs. Que pour vous qui écoutez cette émission ce matin, la parole de Dieu soit un commencement, un inédit, une joie, une clarté qui transforme librement, gratuitement, paisiblement. Que cette parole soit une grâce, un signe, un cadeau de Dieu. Étiez-vous trois? Étiez-vous roi, visiteur étrange de cette nuit constellée? Les mages venus d'Orient, dit l'Évangile sobrement. Et pourtant, que d'imagination! Par votre apparition sollicitée, ce qui m'étonne, voyageur du désert, riche de votre sagesse orientale, c'est que vous ayez tout abandonné pour venir à l'écoute de ce petit peuple opiniâtre. Ô Dieu solitaire, avec quel émerveillement je regarde votre prosternement insolite et vos richesses humaines éparpillées sur la paille de ce roi aux pieds nus. Il y a deux pouvoirs dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a le pouvoir de celui qui prend une tunique, et il y a le pouvoir de celui qui se laisse dépouiller. Il y a le pouvoir de celui qui a tout, et le pouvoir de celui qui n'a rien. Le pouvoir de celui qui porte les armes et le pouvoir de celui qui garde les bras ouverts. Il y a deux pouvoirs dans le monde, le pouvoir de la force et le pouvoir d'aimer.
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut.
Je voudrais vous proposer en ce dimanche, premier dimanche de l'année 2022, de nous préparer à accueillir les Rois Mages. Vous savez, en Espagne, on fête les Rois Mages le 6 janvier. Dans les églises orthodoxes, Noël se fait aussi, se célèbre en janvier. Et ces rois nous disent beaucoup de choses et c'est ce que nous propose ce matin l'Évangile selon Matthieu au chapitre 2. Et je lirai les 12 premiers versets. Des savants viennent se prosterner devant Jésus. C'est ce que dit ce chapitre. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi, des savants vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ?» Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé ainsi que toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moindre importante des localités de Juda, car c'est de toi. Il viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie, Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant, puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Nous avons déjà demandé si vous étiez fabophile. Est-ce que ce terme signifie quelque chose pour vous, fabophile? Cette fête de l'épiphanie, c'est comme ça que les chrétiens appellent cette fête, pourrait vous y inciter à être un fabophile, oui, même si vous n'êtes pas croyant. Fabophile se dit de quelqu'un qui collectionne les fèves et il y a des passionnés. Mais pourquoi les fèves vont-elles bien avec l'épiphanie? Évidemment, que vous soyez croyant ou pas, on a l'habitude, même au bureau, à la maison, d'acheter le gâteau des rois. Alors, il faut se souvenir, comme nous sommes à Nîmes, où nous enregistrons cette émission, et que Nîmes est marquée par son passé romain, il faut se souvenir qu'à Rome, en janvier, on fêtait les Saturnales. Le peuple élisait, pour ces festivités, un roi de dérision, pris parmi les esclaves ou les criminels, le roi d'un jour. On l'élisait en votant comme on le faisait pour les votes romains, c'est-à-dire en déposant une fève dans l'urne. Fève blanche pour le oui, fève noire pour le non. Ça pourrait peut-être resservir dans les prochaines élections à venir. Les chrétiens des premiers siècles ont essayé d'évangéliser ces fêtes païennes et l'épiphanie va remplacer petit à petit les Saturnales et la fève sert désormais à tirer les rois. Et le symbolisme de cette fève est d'ailleurs rehaussé du fait que c'est la première légumineuse récoltée dans le jardin, annonçant la renaissance du printemps. Et regardez bien, une bonne fève de chez nous, celle qu'on mange, qu'on croque au sel. Et vous verrez qu'elle a la forme d'un embryon. Le lien avec l'enfant de la crèche ou la renaissance de Pâques qu'annonce Noël est alors troublante. Les Égyptiens anciens n'appelaient pas d'ailleurs leurs cimetières des cimetières, mais des champs de fèves. Les corps déposés là étaient comme des embryons attendant la renaissance. Reste que cette fève, maintenant, remplacée par du plastique ou de la porcelaine, est glissée dans le fameux gâteau de l'épiphanie, la frangipane ou couronne briochée. Pour que le partage soit équitable, le plus jeune de la famille ou le plus jeune des collègues se glisse sous la table et désigne le nom de chacun lorsqu'on lui demande « c'est pour qui ?» Et le petit dernier des enfants attend ce moment avec bonheur, sans compter la part du pauvre qu'il fallait garder intacte au cas où. L'épiphanie, c'est un peu tout cela et bien plus encore. Les coutumes populaires sont précieuses pour ne pas perdre le goût de chaque fête. La foi a besoin de cette culture populaire, de ces coutumes familiales, pour ne pas devenir élitiste. Car l'épiphanie, c'est le Christ manifesté à tous. Alors, je voudrais que nous continuions dans notre visite des incontournables de l'épiphanie. Par exemple, les trois mages. Vous avez entendu l'évangile que j'ai lu tout à l'heure. Il n'est pas dit qu'ils soient rois, ni qu'ils soient trois. On dit seulement des mages venus d'Orient. Des mages. Pensez à magique, magicien. Ce sont les savants de l'époque, la NASA des païens. Tous savants qu'ils sont, ils viennent s'incliner devant l'enfant de la crèche. Et l'épiphanie, c'est la sagesse et la science humaine qui vivent en harmonie avec la foi. La raison salue la foi et les deux avancent ensemble. Puis, dans l'histoire, ces mages sont très vite devenus trois. Parce qu'il y avait trois cadeaux peut-être. Sans doute aussi parce qu'à l'époque, on pensait qu'il y avait trois continents. Alors, pour signifier l'universalité de Noël, on a représenté toute l'humanité à travers ces trois mages. Et la tradition a précisé l'Européen, Melchior, apportait l'or, l'Asiatique, Gaspard, apportait la myrrhe, l'Asie de l'époque recouvrait en gros la Turquie actuelle et au-delà, d'où un visage semblable à l'Européen, et puis enfin l'Africain, Balthazar, apportait l'encens. Aujourd'hui, il faudrait représenter en fait cinq mages, au moins, au visage des cinq continents. Et enfin, ces trois mages sont devenus trois rois. Sans doute, à partir du IXe siècle, où les controverses entre le spirituel, le temporel devinrent épiques, entre le pape et les empereurs, la bataille était si rude que transformer les mages en rois montrait bien que le pouvoir politique devait reconnaître ses limites devant le pouvoir spirituel. Et l'épiphanie devenait alors l'évangélisation du politique qui se grandit en reconnaissant que cet enfant est plus grand que lui. L'évangélisation, en fait, non terminée. Enfin, les trois cadeaux. Ils signifiaient sans doute que Jésus était bien le Messie annoncé par les Écritures. Messie, grand prêtre, on lui offre de l'encens comme au temple de Jérusalem. Roi Messie, on lui offre de l'or, présent royal. Enfin, Messie prophète, on lui offre la myrrhe qui annonce prophétiquement l'embaumement de son corps après la Passion. Les chrétiens regardent ces trois coffrets sur les tableaux et se souviennent alors que l'huile du baptême a fait d'eux aussi, comme on disait, des prêtres, des prophètes, des rois. Au temps des querelles des premiers siècles, on a vu également dans ces trois présents la preuve que Jésus était bien vrai Dieu et vrai homme. Léon le Grand, pape du Ve siècle, atteste « Ils offrent de l'encens comme à Dieu de la myrrhe, comme à l'homme de l'or, comme au roi conscient, d'honorer dans l'unité la nature divine et la nature humaine. » Bref, en fait, ces trois cadeaux, c'est la foi en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'est notre triple dignité de baptisé, de prêtre, prophète, roi. Comme vous voyez, ils offrirent de l'or, ils offrirent de la myrrhe, ils offrirent, et comme disait d'ailleurs Saint Bernard à cette époque-là, au XIIe siècle, il écrivait, Saint Bernard, « Ils offrirent de l'or à la Sainte Vierge pour soulager sa détresse, de l'encens pour chasser la puanteur de l'étable et de la myrrhe pour fortifier les membres de l'enfant et pour expulser de hideux insectes. » Comme quoi, hein, un microcrédit en désodorisant l'insecticide. Nos trois cadeaux valent mieux que ça. Enfin, il y a un dernier mot à dire sur l'étoile. L'étoile, en fait, elle représente dans ce texte la science astrologique d'alors et aussi la croyance dans le destin écrit dans les astres. En s'arrêtant à Jérusalem, l'étoile reconnaît avoir besoin de l'écriture pour aller plus loin. À l'heure où nombre de citoyens se fient à leur horoscope, à leur voyant et à autres thèmes astro, l'étoile de l'Épiphanie nous demande de considérer avec bienveillance la recherche des mages modernes qui cherchent Dieu à travers tous les savoirs, les thérapies alternatives qui fleurissent aujourd'hui et en même temps d'oser proposer l'écriture comme révélation pour aller plus loin. Mieux vaut chercher une étoile dans le ciel que de ne rien attendre de la vie. Mais quel dommage si personne ne propose à ces chercheurs de Dieu d'ouvrir la Bible pour aller plus loin que la seule sagesse humaine. Alors, il est impossible de tout dire. Il faudrait notamment parler de la date du 6 janvier, pourquoi, du lien entre Noël, l'Épiphanie, les noces de Cana, le baptême du Seigneur. Mais ce sera pour une autre fois, si vous le voulez bien. La seule chose que je voudrais dire pour terminer cette méditation, c'est que cette belle fête de l'Épiphanie nous régale de la joie de Noël offerte à toute l'humanité. Et je vous souhaite une bonne année à venir. Voilà, nous nous dirigeons petit à petit vers la fin de ce temps que nous partageons ce dimanche. Et dans notre tradition, il y a ce temps liturgique que nous appelons la prière d'intercession, qui se terminera par le Notre Père, que vous pourrez dire ou écouter selon ce que vous ressentez. Seigneur, qu'elle chante en au ciel ta gloire au plus haut des cieux et que sur notre terre descende ta paix. Qu'elle descende sur l'Afrique, anxieuse, menacée. Qu'elle descende du nord jusqu'au sud, riche de promesses et lourde de sanglots. Avec les chrétiens de toute origine qui prient et qui chantent, invoquons la paix du ciel sur l'Afrique. Qu'elle descende aussi sur ces Amériques que nous prétendons avoir découvertes, sur la misère de son sud avec la force et la fragilité de son nord, avec les chrétiens de toutes les langues et de toutes races qui y vivent. Invoquons la paix du ciel sur l'Amérique. Que ta gloire les rende vraiment pacifiques, ces îles et ces archipels du bout de notre monde, avec nos églises sœurs de Polynésie. Invoquons la paix du ciel sur l'Océanie, qu'elle se lève sur l'Asie, ta lumière, Seigneur, de la Chine impénétrable à l'Inde innombrable, avec les croyants de toute religion qui y prient. Invoquons la paix du ciel sur l'Asie. Qu'elle descende à nouveau ta gloire sur ce Proche-Orient, frayé ou foyer plutôt de tensions et d'affrontements. Sur la terre, que tes pas enfoulés, ce Moyen-Orient, que tous ceux qui y prient réapprennent à s'y parler. Invoquons la paix du ciel sur le Proche-Orient, qu'elle rayonne, Seigneur, ta gloire au plus haut des cieux, sur cette petite étable œcuménique qu'est ton Église universelle. Que dans son humble obéissance et son unité en marche, le frémissement de ton royaume annonce au monde la paix du ciel. Qu'elle rayonne, Seigneur, ta gloire en cette nuit, sur nous qui t'invoquons, sur ce jour qui se lève dans cette nouvelle année. Qu'elle illumine notre espérance de te savoir désormais si proche. Mêlant tes pas aux nôtres en la longueur des jours. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen.
Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer la nuit. Mon Dieu,
le Christ nous dit « Vous êtes le sel ». Alors il faut libérer notre saveur en toute relation. Vous êtes la paix. Alors apaisez toute chose et toute personne quand la peur gagne. Vous êtes une lumière. Éclairez ce qui est sombre ou trouble autour de vous. Vous êtes un lien. Alors tendez la main aux autres et que la chaîne se fasse. Vous êtes un baume, soyez présent quand un cœur est brisé. Vous êtes un chant, donnez du courage et de la joie sans retenue. Vous êtes un bâton, soutenez les genoux qui chancellent. Allez-y, cette année 2022 est une nouvelle chance pour s'efforcer d'être tout cela à la fois, sans attendre que les autres le soient, car précisément, vous n'êtes pas les autres. Bonne et heureuse année 2022 à vous toutes et à vous tous.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Redouane Esventi, pasteur de l'Église protestante unie de France, actuellement pasteur de l'Église protestante française de Saint-Gall en Suisse. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.